J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. Lors des trois derniers épisodes de notre émission consacrée au jeu et à la philosophie, et donc en particulier à la philosophie du jeu, nous avons abordé tour à tour deux ingrédients ludiques fondamentaux, deux facettes du jeu engendrant chacune à leur manière une forme d'incertitude. La plus connue sans doute est l'incertitude engendrée par le hasard, dont on a vu qu'elle était par essence incontrôlable et qu'elle ne permettait aucun raisonnement stratégique. La seconde est l'incertitude engendrée par la combinatoire, c'est-à-dire par l'éventail des options possibles qui, dans le cas de jeux de stratégie complexes, dépassent de loin notre entendement, créant ainsi un doute quant à la stratégie à adopter. Bien évidemment, entre le jeu de loi où seul le hasard intervient et le jeu de Go, où l'explosion combinatoire est portée à son paroxysme, de nombreux autres jeux utilisent ces deux ingrédients en même temps et dans des proportions différentes. Et s'ils sont tous les deux sources d'incertitude, il est cependant fondamental de savoir les distinguer, puisque comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'un peut être apprivoisé par la théorie ou par la pratique, tandis que l'autre ne le pourra jamais, parce qu'il est par essence incontrôlable. Lors d'une partie de risque, il faut ainsi être capable de distinguer ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire nos choix stratégiques, souvent guidés par les statistiques, et ce qu'il faut accepter comme le résultat d'un lancer de dés. Cette attitude pourra nous rappeler la maxime stoïcienne de Marc Aurèle qui souhaite que la force lui soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Nous en arrivons à présent au sujet de l'émission d'aujourd'hui, qui s'intéresse en fait à un troisième vecteur d'incertitude dans les jeux. Une troisième source d'incertitude qui vient donc compléter un peu les principes que nous venons de résumer. Il s'agit de l'incertitude engendrée par le comportement des autres joueurs en présence d'une information incomplète. C'est-à-dire dans le cas où les joueurs n'ont pas tous accès aux mêmes informations. Et c'est notamment ce qui caractérise les jeux de bluff. Pour commencer avec un exemple simple, prenons le très célèbre Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. L'incertitude ici ne vient pas du hasard, à proprement parler, mais plutôt de notre méconnaissance des décisions de l'adversaire. Vraiment, même si ça peut parfois y ressembler, il ne s'agit pas là de hasard, pour la bonne et simple raison que les humains sont justement incapables d'agir au hasard. Dans une partie de Shifumi, un bon observateur, un fin psychologue, pourrait faire la différence en lisant l'esprit de son adversaire pour anticiper certaines de ses décisions. Lorsqu'on joue à répétition à pierre, feuille, ciseaux, on se rend effectivement compte que les séquences de jeu ne sont pas complètement chaotiques. Il y a des régularités, des hésitations que l'on peut apprendre à exploiter pour faire mieux que la chance. Ce qui ne sera jamais le cas d'une partie de pile ou face, puisqu'il n'y a aucune régularité à déceler dans une succession de pièces jetées en l'air. Une information, parce qu'elle peut transparaître dans le comportement des joueurs qui en disposent, n'est donc jamais complètement cachée. Imaginez une carte tirée au hasard dans un paquet et mise de côté face cachée. Tant que personne n'y a accès, cette carte ne peut avoir aucune influence sur le jeu. Aucune décision, en tout cas, ne devrait la prendre en compte, puisqu'il s'agit en vérité d'une absence d'information. La prendre en compte reviendrait en fait à parier complètement au hasard. Si celle-ci, en revanche, est retournée aux yeux de tous, alors on lève toute l'incertitude. Les joueurs et les joueuses pourront s'appuyer en toute confiance sur cette information pour prendre des décisions stratégiques. Si cette carte est maintenant révélée à un seul joueur, on entre dans le domaine de l'information incomplète. Dans ce genre de jeu, où il faut savoir garder pour soi une information qui pourrait nous donner un avantage stratégique, le hasard peut cependant devenir une stratégie. Si un joueur faisant le vide dans son esprit parvient à produire une séquence de jeu aléatoire, ou en tout cas une séquence de jeu suffisamment chaotique pour que ses adversaires ne puissent y exploiter aucune régularité, le jeu ressemblera alors, pour ses autres joueurs, à un jeu de pur hasard, à un simple pile ou face. C'est parce qu'on choisit d'oublier l'information cachée dont on dispose qu'on est capable de prendre l'apparence du hasard. Ainsi, dans le cas des jeux de bluff, on peut faire mieux que la chance en observant son adversaire, seulement à condition que celui-ci n'utilise pas l'apparence du hasard pour se protéger. Au poker, toutes les dimensions de l'incertitude se trouvent mêlées dans un incroyable jeu de hasard, de bluff et de combinatoire. Le premier vecteur de cette incertitude, en tout cas celui dont on a le plus conscience lorsqu'on débute, vient bien évidemment du tirage des cartes. Aurais-je ou non, au moment de retourner ces cartes, une meilleure main que celle de mes adversaires ? On se rend ensuite compte, assez rapidement, que, comme au blackjack, il s'agit de se battre contre ce hasard, en calculant, à partir du peu d'informations dont on dispose, nos chances de réussite et en agissant en fonction. Mais l'ensemble des configurations possibles au poker est loin d'être anodin, si bien que l'incertitude vient également de la complexité de ces configurations statistiques. À cela s'ajoute notre troisième vecteur d'incertitude, et non des moindres puisqu'il s'agit de la stratégie des adversaires. Les choix qu'ils effectuent peuvent, dans un jeu de bluff, constituer ou non une information supplémentaire venant nourrir le calcul statistique et améliorer les chances de victoire, à condition bien sûr que cette information soit correctement interprétée. On peut alors se vêtir de l'apparence du hasard pour prendre un temps sa place, pour le tourner contre son adversaire, contre ses calculs, et ainsi espérer échapper à son emprise, du moins tant que les cartes ne sont pas révélées. Alors seulement le hasard peut reprendre ses droits, mais la séquence des actions et des calculs précédant cette révélation aura d'abord pris soin de désigner un vainqueur.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !